dans cette atmosphère de louange et aussi avec le souffle de l'Esprit, je vous invite à écouter ce que Paul nous dit et puis ce que Paul nous dit à chacune et chacun d'entre nous. Je pense que cette lettre, il l'a adressée il y a 2000 ans et puis je pense qu'il l'adresse encore individuellement à chacun d'entre nous. Alors laissons-nous simplement habiter par ces mots, laissons-nous simplement prendre par ce qu'il a à nous dire avec ce texte. Paul et Timothée, esclaves de Jésus-Christ, à tous ceux qui sont à Philippe ou à Nyon et qui sont saints en Jésus-Christ, aux épiscopes et aux ministres, grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour vous tous de prier avec joie à cause de la part que vous prenez à la bonne nouvelle depuis le premier jour et jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ. Il est juste que j'aie pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que, dans ma condition de prisonnier, comme dans la défense et la confirmation de la bonne nouvelle, vous avez tous la même part à la grâce que moi. Dieu m'est témoin, en effet, que j'ai une vive affection pour vous tous, la tendresse même de Jésus-Christ. Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité, qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de la justice qui vient par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Amen. C'est pas mal, hein? C'est pas mal de recevoir ces mots. Et je suis assez fasciné de voir qu'ils n'ont pas pris une seule ride. Ils n'ont pas pris un seul coup de vieux. Pas un seul cheveu blanc, rien du tout. Ils restent d'une vigueur et d'une force, j'ai envie de dire, qui déplacent les montagnes, ou en tout cas qui déplacent les siècles. Et ces mots, c'est Claudia Huet, c'est la présidente actuelle de notre conseil, qui est tout là-haut, qui nous regarde de là-haut, qui nous les a adressés lundi dernier lors de notre séance hebdomadaire au conseil. Alors, on n'est pas tous les jours au brasseur, c'est même plutôt assez rare que l'on soit au brasseur, mais simplement c'est lors des occasions exceptionnelles qu'on fait des photos. Alors, c'est la seule photo que j'ai retrouvée de notre conseil, c'était pour dire au revoir à Anthony et Nathalie Perrault l'année dernière. C'était assez agréable comme moment. Mais juste pour nous dire qu'on se retrouvait lundi passé en conseil, comme chaque lundi, pour penser à la communauté, vivre la communauté, essayer de la diriger aussi de la bonne manière, selon la volonté de Dieu. Et elle nous a partagé ce texte, et ça m'a beaucoup touché, dans ces temps où les relations, effectivement, sont moins évidentes que par le passé, que 6 mois en arrière. Ça m'a touché parce que ces paroles de Paul sonnent particulièrement justes. Et nous tous qui étions réunis, là, on était les 7 réunis, je crois que ça nous a fait tous énormément de bien de recevoir ces paroles de la part de Claudia. Et je me suis dit, je ne pense pas que ce soit seulement destiné aux épiscopes et aux ministres, c'est aussi destiné à l'ensemble du peuple de Dieu. Et c'est pour ça que je nous les partage ce matin et que je nous propose de les méditer en cercle élargi au sein de notre communauté et pour vous aussi qui êtes chez vous. Paul est prisonnier, vous l'avez entendu, et les relations quand on est prisonnier, sont plutôt mises à mal. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde dans la salle qui a déjà vécu cette case prison, je ne pense pas. Mais ce qu'on peut imaginer, c'est que les relations sont un poil compliquées quand on est prisonnier. C'est exactement ce qui se passe un peu pour nous, où on se rend compte que le constat actuel de notre situation, c'est que les relations sont mises à mal. C'est pour ça que je pense que ça fait un écho particulier, ce que Paul nous dit là ce matin. Et cet élan affectif de Paul, je crois qu'il peut devenir le nôtre. C'est beau d'entendre Paul de cette manière-là. Parce qu'on peut avoir X images de Paul, c'est celui qui est un peu, un peu rabat-joie, un peu celui qui est légaliste, on peut avoir X images. Et là, je trouve qu'on a une autre image de lui, c'est une image pleine d'affection. On sent qu'il parle avec ses tripes, qu'il parle avec son cœur, qu'il parle avec ses émotions pour dire à quel point il apprécie la communauté des croyants. Dire à quel point il apprécie l'Église, ses relations qui font que l'on vive ensemble quelque chose de spécial parce qu'on est attaché au même Dieu. Il n'est pas en train de faire des théories ou des grandes élucubrations théologiques, il est en train de dire son élan et son amour avec ses propres mots. Et on ressent encore 2000 ans après cette même vibration parce qu'il touche nos cœurs, il touche qui nous sommes en tant que croyants. Et rien ne nous empêche, je crois, à notre tour, de nous laisser porter et peut-être envahir même par cet élan affectif que nous pouvons avoir les uns pour les autres. Ces 11 premiers versets de l'Épître aux Philippiens, ils peuvent vraiment, je crois, nous inspirer dans ce temps de relations mises à mal pour nous dire, gardons cet élan. Puis si vous regardez une chose de cette prédication de ce matin, repensez à ces 11 premiers versets et vous dites, oui Seigneur, porte-moi aussi par cet élan vers l'autre, vers celui qui croit comme moi en Jésus-Christ. Parce que derrière cet élan, on devine le manque, évidemment. On l'imagine perdu dans sa cellule, on l'imagine seul, certainement avec pas beaucoup de visites. Je ne sais pas s'il y avait déjà des aumôniers de prison, je ne crois pas. Mais on l'imagine seul et en lien avec Dieu pour être en lien avec les chrétiens de Philippe. Il passe par Dieu pour être en lien avec les chrétiens de Philippe. Et Paul, finalement, on peut dire qu'il ne se laisse pas abattre, car il sait que cette affection lui est donnée de la part de Dieu. Qu'il n'a pas à construire cette affection, mais qu'il a à la vivre. Et c'est dans ce sens-là, je pense qu'on peut conserver cet élan de Paul. Je vous l'ai mis en gras, parce que je trouvais qu'elle était pas mal la phrase que j'ai pondue. Donc, Paul ne se laisse pas abattre, car il sait que cette affection lui est donné de la part de Dieu, il n'a pas à construire cette affection puis ramer en se disant que ça va être compliqué. Il a simplement à vivre cet élan, ce souffle qui est déjà là de la part de Dieu. Et ça, non plus, ça n'a pas pris une seule ride, c'est exactement la même chose pour nous, toutes et tous. Cette semaine, j'ai téléphoné avec, je ne sais pas si vous le connaissez celui-là, qui est derrière moi. Oui, il y en a au moins une, c'est bien. Je vais pouvoir lui dire que le sondage dans les églises locales, ce n'est pas brillant. Oh, plus qu'une, ou bien non. C'est Philippe Tuller, c'est notre secrétaire général. Alors, quand j'ai dit qu'il serait sur grand écran, il était tout troublé. Non, ce n'est pas vrai. Il était tout honoré. Mais pour vous dire, c'est le secrétaire général de notre fédération d'églises. Donc, c'est lui qui a un peu un regard global sur ce qui se passe dans les plus de 50 églises de notre fédération en Suisse romande. Il y a de toutes les tailles, hein. Il y a de 50 à 500 membres. Il y a vraiment un panel qui est assez intéressant. Et puis, pour lui, il y a un constat, effectivement, qui ressort de ces derniers mois sur la vie des églises, c'est que les relations sont mises à mal. Il y a de la défiance, il y a de la distance, il y a des incertitudes, il y a des manques de sécurité, et puis il y a des ce que j'appelle des deltas qui commencent à se créer, puisque comme on ne se voit pas très souvent, ce qu'on peut penser de quelqu'un ou de l'Église, tout à coup ça prend ça, puis ce qui se passe c'est la réalité, puis le delta devient de plus en plus grand parce qu'on n'a plus ces moments de rencontre réguliers pour ramener un peu, simplement se reparler, s'échanger des nouvelles, se dire comment on va réellement et pas comment on pense que l'on va. Ah, ça fait tilt un peu, oui. On se rend compte que, voilà, il n'y a pas ces moments-là de rééquilibrage des choses. Et puis ça, pour une communauté, c'est assez compliqué à gérer, c'est assez compliqué à vivre. On est dedans, c'est la réalité, c'est pour ça que je suis heureux quand on peut se retrouver ensemble, comme au bord d'un Feu. Bien joué. On vit quand même un phénomène assez unique. Hein. On est dedans depuis 6 mois maintenant. On a calculé avec les enfants ce matin, ça fait 6 mois qu'on est dedans. On a l'impression que ça fait 3 ans, mais non, ça fait que 6 mois. On vit dans un phénomène assez unique où l'autre, il n'est plus quelqu'un sur lequel on peut s'appuyer, mais l'autre, il est devenu une potentielle source d'affection. C'est quand même bizarre hein, comme truc. Alors, je ne vais pas l'analyser en long et en large, mais c'est assez impressionnant. Et puis, je pense que ce constat que l'autre est potentiellement plus une aide ou quelqu'un de forcément sympathique, mais potentiellement une source d'affection, ça rentre petit à petit dans nos cerveaux, quoi. Ça rentre petit à petit même dans nos cœurs, peut-être même dans nos émotions. Il ne faut pas sous-estimer ce processus qu'on est en train de vivre actuellement. Les relations sont mises à mal et on est dans un contexte qui est hyper exigeant à ce niveau-là. Et puis ce matin, je ne vais pas analyser parce que je vais plutôt essayer de proposer comment est-ce que l'on peut vivre dès lors dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut vivre des bonnes relations dans ces conditions-là. Et là, il y a un terme qui ressort de cette lettre de Paul, c'est l'affection fraternelle. C'est l'affection qu'on peut avoir les uns pour les autres. Alors j'entends déjà les objections, hein, conscientes ou inconscientes, verbales ou non-verbales, comme quoi il est impossible d'avoir de l'affection pour tout le monde, mais simplement pour un petit nombre, que c'est impossible et que c'est beaucoup trop compliqué de toute manière d'aimer celui qui est à côté de moi, à part si je le connais bien et que je vais boire l'apéro avec lui. Sinon, ce sera impossible, je vous le dis, j'ai déjà essayé depuis 35 ans, ce n'est pas possible. Et pourtant, la seule réponse que je vais vous donner ce matin, c'est que c'est la réponse pour vivre des bonnes relations, c'est cette affection fraternelle. Alors souvenez-vous que de ma super phrase là du début, de Paul qui ne se laisse pas abattre parce qu'il n'a pas à construire cette affection fraternelle, il a à la vivre. Tout le moment de louange, ça a été basé sur le moment qu'on était porté par ce souffle de l'esprit. Si on est porté par ce souffle de l'esprit, c'est pour vivre cette affection fraternelle, point. C'est pas pour passer forcément un bon temps, ça c'est un side effect qui est assez cool, peut-être aussi, mais c'est pour vivre cette affection fraternelle, finalement cet amour du prochain. Puis on est facilement dans l'espèce d'objection, disant de toute manière c'est impossible, et puis on le problématise. Hein. Après on analyse, et puis on se trouve toutes sortes de X bonnes excuses pour dire de toute manière on ne va jamais y arriver, donc ça ne vaut pas la peine que même je m'y mette. Ou bien si je m'y mets, de toute manière je serai que culpabilisé, enfin voilà, vous connaissez toutes les bonnes excuses qu'on peut avoir. Hein. Et je crois qu'on a besoin de cet élan que Paul nous donne. On a besoin de ce souffle que Dieu nous donne pour dire oui, cette affection fraternelle, et particulièrement quand les relations sont mises à mal, ça reste presque sacré. Ça reste presque notre seul objectif à vivre. Pourquoi ? Parce que c'est la tendresse même de Dieu qui peut agir à travers nous. Paul y fait référence. Hein. Il écrit cette lettre aux Philippiens et disant « Je puise ma force dans cette tendresse même du Christ que j'ai pour vous. » Si nous, on a expérimenté la tendresse de Dieu, je pense qu'on est capable de la redonner à d'autres. Et de nouveau, on retombe hein, sur nos pieds en tant que croyants, c'est que d'abord, on se place de savoir qui est Dieu. Et puis, si on croit que Dieu est un Dieu de tendresse, on pense que son esprit peut vraiment agir avec nous comme un esprit de tendresse. Ce n'est pas beaucoup plus difficile que ça, c'est plus difficile à expérimenter. Mais dans le fond, c'est ça, c'est notre foi qu'on a en Dieu, qui est un Dieu de tendresse, peut produire cette action de tendresse dans nos vies de tous les jours. En tant que croyant, on pense aussi et on croit que notre Dieu, par Jésus-Christ, est venu comme médiateur. Alors, médiateur, généralement, on leur fait appel quand il y a un peu un problème. Quand tout va bien, il n'y a pas besoin d'un médiateur. Quand il y a un problème, il y a besoin d'un médiateur, c'est-à-dire d'une tierce personne pour dire on va prendre un pas d'écart pour essayer de réconcilier au mieux deux personnes ou deux groupes qui sont en conflit. Christ, dans la Bible, il est décrit comme le médiateur, celui qui fait la paix entre Dieu et les hommes. Et il est aussi décrit comme celui qui fait la paix entre les hommes. Et un théologien que j'aime beaucoup nous encourage à dire et à penser que chaque fois que l'on voit un frère ou une sœur, chaque fois qu'on est en relation avec un frère ou une sœur, on peut imaginer le Christ qui est au milieu de la relation. On voit plus seulement Marlène comme je te vois là, mais on voit le Christ qui est entre nous deux. Pas comme un écran, mais comme un médiateur. Et là, je vous garantis que ça change tout. On passe pas en direct avec mon frère ou ma sœur. J'ai pas de l'affection en direct. J'ai de l'affection à travers le Christ qui est mort et ressuscité pour moi, comme il est mort et ressuscité pour Marlène. Et ça, ça change pas mal de choses. Ça procure déjà une égalité fondamentale entre tous les croyants. C'est-à-dire que chacune, chacun, Christ est mort exactement la même chose pour toi que pour moi. On est exactement au même stade. Et ensuite, cette force d'amour qui nous est donnée, car Dieu est amour et tendresse, je passe à travers lui pour essayer d'aimer le mieux possible. Essayez dans votre vie de tous les jours, avec même vos collègues de travail, même s'ils n'ont pas le Christ, mais de se dire, il y a le Christ entre mon voisin et moi. Il y a le Christ entre mon collègue de travail et moi. Il y a le Christ, allez, soyons fous, entre mon épouse et moi. C'est vrai, hein? Il y a le Christ entre mon frère ou ma sœur et moi. Entre mon enfant et moi, même quand il m'énerve. Et là, je pense que ça change les choses et que cette affection fraternelle, elle devient plus palpable, plus presque, entre guillemets, réaliste. Je passe au fait sur le fait qu'on ait une même mission, finalement, c'est qu'on prend tous part à la bonne nouvelle, que c'est ça notre raison d'être sur cette terre. Et finalement, que cette affection fraternelle se joue aussi dans la patience que l'on peut avoir les uns avec les autres. Ça ne va pas forcément tomber comme ça, je pling dessus, parfois ça arrive, mais souvent c'est un processus qui demande une certaine patience, qui demande du temps, et particulièrement dans les temps d'épreuve. Peut-être c'est une des premières fois dans notre vie, en tout cas moi je trouve que c'est une des premières fois qu'on vit vraiment un temps d'épreuve plus prolongé au niveau des relations. C'est la première fois qu'on est mis un peu sous pression en tant que Suisse. Peut-être d'autres ont vécu des temps plus durs, mais pour moi, en tout cas, qui suis né en 1979, je n'ai pas souvenir d'avoir eu une période qui s'étale quand même sur assez longtemps, de crise qui se prolonge au niveau comme ça, relationnel. Et puis finalement, j'ai mis aide financière parce qu'on se rend compte aussi que cette affection fraternelle pour Paul, vis-à-vis de cette église de Philippe, elle se joue aussi sur ce lien qui lui a permis de recevoir de l'argent de la part de cette communauté. Et c'est intéressant de noter que c'est une des seules fois qu'il accepte une aide financière qui signifie aussi cette affection fraternelle les uns pour les autres. On va voir tout à l'heure un petit point sur la situation financière de notre Église. Et je crois que cette affection fraternelle se manifeste aussi de manière tout à fait, je dirais, transparente par ce biais-là dans des relations fraternelles. Et pourtant, on se rend compte que c'est un sacré défi de vivre véritablement cette affection fraternelle, cet amour les uns pour les autres. Alors, je vous en donne la preuve maintenant, en direct. Parce que je suis allé chez Payot. Vous connaissez Payot ? C'est une librairie qui est au centre commercial de Lacombe. Et je suis allé faire un petit tour dans le rayon développement personnel. Alors, regardez ce que j'ai trouvé. Le premier, il est pas mal. Affection fraternelle, l'ennui des autres. C'est quoi ? Comment y échapper ? Alors, Madame Béatrice Millièvre va vous dire comment y échapper. Alors, je me rends tout de suite compte que je suis sur une pente glissante en faisant ce petit exercice, parce que peut-être que je vais tomber sur le livre que vous avez lu cet été, non pas à la plage, mais à la montagne, que j'aurai droit à quelques commentaires tout à l'heure, mais ce n'est pas grave, je prends le risque. Je me défausse tout de suite en disant que j'ai que regardé les couvertures, parce que plus loin, ça ne m'a pas trop intéressé. Ça m'a suffi. Deuxième sur lequel je suis tombé, de nouveau dans la relation à l'autre, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que l'autre, finalement, ce n'est pas un imposteur qui cherche à user, abuser de ma vie ? Donc, de nouveau, là, clac, plutôt que l'autre soit une source d'affection fraternelle, l'autre, on s'en méfie. Déjà, peut-être qu'il a le corona, et en plus, c'est peut-être un imposteur. Ça fait un peu beaucoup. Pourquoi être en affection fraternelle avec lui ou avec elle ? Après, celui-là, il est aussi pas mal pour nous, chrétiens, je trouve. Le syndrome du sauveur, se libérer de son besoin d'aider. se libérer de son besoin d'aider. C'est pas mal. Nous, on est appelés en tant que chrétiens à être au service les uns des autres. Alors, chez Payot, vous pouvez trouver le moyen de faire exactement le contraire. Puis vous avez vu que... Vous avez vu que l'illustration, c'est un petit ange, donc on est vraiment aux premières loges à ce niveau-là. Ça continue, hein, il y a l'avoir à du choix, hein, là j'ai seulement fait une petite sélection. C'est une femme qui aime trop, c'est un homme qui l'écrit, ça c'est quand même pas mal. Ou bien Robin, c'est aussi un nom féminin, je ne sais pas. Après, bon, c'est un peu plus pourquoi attirez-vous des hommes qui ne vous conviennent pas, ça j'ai pas trop suivi. Mais comment est-ce qu'on peut trop aimer? C'est quand même la question qu'on peut se poser là. Assez légitimement. Comment est-ce possible de trop aimer? Là, visiblement, c'est possible, c'est une réalité. Et de nouveau, vous avez la recette pour vous en sortir. Ça, c'est plus subtil, mais c'est pas mal du tout aussi. Le jour où je me suis aimé, moi, je m'aime pour de vrai. Moi. Enfin, moi, j'ai rajouté deux, trois petits sous-titres pour bien souligner le sens de cet ouvrage. Donc, le jour où je me suis aimé, moi, on voit que l'autre a une place assez phénoménale, sans parler de Dieu. On voit que là, tout tourne autour de l'autre. Hein. C'est bien clair. Ça, toujours dans le même sens, all by myself. Alors, pour ceux qui ne sont pas bilingues, c'est tout par mes propres forces, tout par moi-même, finalement. Je ne vais pas vous chanter la chanson, je ne sais plus qui est là. C'est qui la chante? Whitney Houston, je crois, un truc comme ça. Non? Ah, Céline Dion, pardon. Elle sera au Paléo l'année prochaine, normalement. Donc, elle pourra la chanter All by myself, tout par mes propres forces, tout finalement par ma propre perception. On voit que c'est assez clair. Et la cerise sur le gâteau. Devenez narcissique et sauvez votre peau. Puis après, on se rend compte qu'il a quand même un tout petit peu mauvaise conscience parce qu'il rajoute « Être narcissique, ce n'est pas être égoïste, c'est savoir se respecter. » Donc voilà, il a bien compris qu'on allait l'attaquer sur ce titre un poil provocateur. Et il s'est dit « Non, c'est savoir se respecter. » Et on en rajoute une couche sur son bien-être personnel. Bon, voilà, j'espère que vous n'en avez pas lu. De manière, vous n'avez plus le droit de... Vous n'aurez plus le coup de venir vers moi pour me dire que vous l'avez lu cet été. Mais... pas besoin d'être très observateur pour discerner un point commun et une différence fondamentale. Il y a quand même un point commun qui est assez évident entre la théologie chrétienne ou la foi chrétienne et les développements personnels. Vous arrivez à voir lequel? C'est qu'il y a un constat d'échec sur les relations. Si on écrit autant de livres, puis là, c'est qu'une petite sélection sur les dizaines qu'il y a encore. Hein. Si on écrit autant de livres sur les relations, sur l'autre, sur le syndrome du sauveur, de l'imposteur, sur le fait qu'il faut s'aimer soi-même, sur le fait de devenir narcissique en toute bonne conscience, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas tout qui est 100% au point. C'est bien la preuve que tout n'est pas rose et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et dans la foi chrétienne, on tombe exactement sur ce même constat d'échec, c'est que nos relations sont mises à mal par un gros mot qu'on appelle le péché. Le constat d'échec est exactement le même. Simplement, je dirais que dans le développement personnel, il n'est pas vraiment fait et assumé, il est supposé. Puis ensuite, on donne une solution, on donne la solution. Et effectivement, la forte différence et la forte divergence, c'est que nous pensons et nous croyons et nous mettons notre confiance dans le fait que nous avons besoin d'un salut, c'est-à-dire d'une solution qui est en dehors de nous, en Christ, qui n'est pas en nous, parce que je me suis aimé moi-même enfin après X années de souffrance. On pense en tant que croyant qu'on est libéré de notre péché à la croix par la mort et la résurrection de Jésus. Et ça, c'est une différence fondamentale. Ce qu'on chante là, quand on nous dit « Viens, on s'amène, on vient vers toi Seigneur pour être à tes pieds et à ta croix », on dit finalement notre besoin de salut. On dit notre besoin de trouver une solution, pas dans nos propres forces, mais parce que Dieu nous la donne. Parce que Dieu se révèle en Christ et nous la donne. Et ça change tout. On est dans une divergence fondamentale. Et c'est pour ça qu'on croit être juste comme porteur de la bonne nouvelle, parce qu'on pense et on assume pleinement que cette solution-là et cette réponse-là donnée par Dieu à ces relations qui sont mises à mal, c'est bien plus profond que tous les livres de développement personnel que l'on peut lire. On pense et on croit et on est fier, à l'instar de ce que Paul disait, que cette ouverture vers Dieu, ce salut qui vient de Dieu, va faire beaucoup plus de différence dans nos vies et dans nos relations que si on reste centré sur soi-même. Et ça, c'est une conviction forte, c'est une conviction fondamentale et c'est une conviction qui donne un sens à notre vie. C'est une conviction qui nous donne ce souffle pour assumer des relations qui sont marquées par le sceau de l'affection fraternelle. On ne va pas le trouver chez Payot, on ne va pas le trouver ni même dans nos cœurs, on va le trouver en s'ouvrant à Dieu, en lui faisant part notre constat d'échec sur les relations et en cherchant vers lui la libération pour vivre cette affection fraternelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle que l'on peut proclamer avec joie. Amen.